Et on avait 10 heures de Star Wars.
Et c'était... D'ailleurs, tu m'as pas dit ce que t'en pensais. Enfin, je t'ai pas dit non plus ce que j'en pensais. Bon, allez, on commence.
Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la culture pop en général et surtout en particulier. Nous sommes à nouveau dans la période favorite des sériephiles parisiens, la colonie de vacances des critiques. Sériemania a commencé hier soir. Et cette année, on a décidé de vous offrir plein de petits podcasts tout de suite, plutôt qu'un gros beaucoup plus tard. Ce soir, vendredi 14 avril, au bout du premier jour plein du festival, je suis accompagnée du fidèle Dominique Montet. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
T'as vu, on n'a pas dit bonjour, mais bonsoir et tout.
Non, c'est bien.
On est super rodés. Et on va tout simplement vous parler de ce qu'on a vu aujourd'hui, en essayant de pas trop spoiler, pour ceux qui auront la chance de voir les séries dont on va parler, et quand même de dire des trucs assez intéressants pour ceux qui n'auront jamais l'occasion de voir les séries dont on va parler, surtout que c'est très international comme sélection. Alors, je vais commencer tout simplement par la première qu'on a vue ensemble ce matin, The Teach, qui est une série polonaise de 10 épisodes dont on a vu les deux premiers. Est-ce que tu veux me faire un pitch ?
Alors, The Teach raconte... Enfin, tout commence avec la découverte du corps d'une jeune femme qu'elle a 16 ans...
17 ans.
17 ans, en forêt, inanimée par son petit ami du moment et ses deux amis. Ça reprend un petit peu la thématique très commune à beaucoup de séries, l'an dernier à Sériemania.
Et l'année d'avant.
Et derrière, donc, une enquête va se lancer, et surtout un nouveau prof va arriver dans le lycée de la jeune fille, prof de polonais.
Donc, c'est
comme les profs de français chez nous, en fait.
Voilà, c'est ça, il apprend pas la langue polonaise, vu que c'est en Pologne.
Je resitue pour nos amis.
Oui, non, mais c'est la première fois que j'ai découvert que les Anglais avaient des profs d'anglais. J'étais là, mais pourquoi ils ont pas besoin d'apprendre? Ah non, c'est un prof de littérature, en fait. Oui, d'accord, ok, c'est logique.
Donc une enquête va avoir lieu et lui aussi va se retrouver quelque part, va se retrouver à mener un petit peu l'enquête de son côté. Il faut savoir qu'il a un passé de psychologue, il a travaillé aussi pendant quelques années dans un centre de... comment on appelle ça ?
Il a dit un centre d'ados à problème. Donc ceux qui ont des problèmes et qui font des problèmes aux autres. Donc c'est...
Voilà.
Il a dit, le personnage il est sorti de l'écran, il nous a raconté sa vie et tout.
C'est ado à problème, c'est un petit peu redondant comme.
Oui, c'est ça. Donc ado à gros problème, on va dire.
Un gros problème. Pour le pitch qui a été super bien fait, je pense que je mérite un Oscar du pitch.
Alors, qu'est-ce qu'on a pensé ?
J'ai trouvé ça globalement très très bien. Et franchement, j'étais pas du tout partie pour trouver ça très bien.
Moi aussi, j'avoue que le côté... on a mis 4 minutes dans les séries de Sériemania à voir une ado morte. Yeah ! C'est dans une petite ville. Yeah ! Oui, il y a un projet de construction. Yeah ! L'éditeur qui a écrit un truc l'année dernière ou l'année d'avant sur le fait que toutes les séries parlaient, étaient dans des petites villes qui avaient des problématiques d'industrie où ils essayaient de construire un barrage, de construire une série, de construire un machin. Et là, pareil, il y a des Suédois qui veulent... J'ai fait un bruit. Il y a des Suédois qui veulent acheter du terrain.
Comme dans Twin Peaks.
Oui, c'est ça. Donc, alors, le truc à la sortie, c'est le premier truc que t'as dit, c'est...
Ouais. Ah, le nombre de références à Twin Peaks... je pense que dans n'importe quel autre projet, un peu moins bien intentionné, un peu moins subtil, et surtout avec ce ton-là, ça m'aurait énervé. Parce que, au niveau tonalité, ça n'a rien à voir avec Twin Peaks. C'est pas aussi perché, mais c'est pas pour autant de la noirceur à tous les coins de rue. C'est très touchant. Voilà, c'est pas ça. Non plus de la joie de vivre partout, c'est très touchant. Ça tient aussi au fait que le personnage principal, tu rentres très rapidement en empathie avec lui, même si sur les premières scènes, j'ai dit attends, il est mêlé à l'histoire, il est glauque un peu. Et en fait, il y a quelque chose dans son attitude, dans sa manière d'aborder les gens. Il fait un peu de l'interrogatoire constant mais passif où en fait il écoute beaucoup, il échange et il a l'air toujours un petit peu observateur, tout ça,
et il vigilant est très, mais de vigilant. Sur les bonnes choses en fait.
C'est ça, et il est très touchant très vite, et c'était un peu un truc assez casse-gueule à faire, parce qu'en gros il fout son grain de sel partout. Mais par contre, il y a énormément de clins d'œil appuyés et clairs à Twin Peaks. Donc, le fait que tu es quelqu'un qui détient les rênes financières de la ville, qui est en train d'essayer de vendre une partie de terrain des Suédois, si c'est pas une référence volontaire, j'y croirais pas, de toute manière. C'est trop appuyé pour que ça soit pas le cas. Et aussi le fait qu'il retrouve à la fin un pendentif, qui est un pendentif en cœur, comme le pendentif en cœur de Twin Peaks, que du coup, sur ce pendentif, on voit une initiale. Dans les premiers épisodes, le questionnement c'était qui est ce Jay que devait rencontrer Laura Palmer avant sa mort. Enfin bon, il y a évidemment, c'est une jeune fille que tu retrouves morte dans. Elle est complètement blanche, vidée de sa vie. C'est la petite fille modèle que tout le monde trouve géniale, mais elle a un côté obscur. Elle a un petit ami très émo, très émotif, comme dans Twin Peaks.
Et une meilleure amie qui s'inquiète de l'état de santé mentale du petit ami en question.
T'as les petites frappes aussi qui se chauffent avec le mec en question, qui ont l'air d'avoir une histoire.
Moi, il y a plusieurs trucs que j'ai aimé dans cette série. Bon, ça m'a vraiment plu, mais surtout. J'ai aimé le fait que, comme toujours avec le côté touriste de Sérimania, on est en Pologne et on voit pas souvent la Pologne, on sait pas comment les gens vivent, les gens en Pologne. Je me suis posé une question sur l'état financier des gens quand même, parce que tout le monde avait l'air quand même très classe moyenne, installé avec plein d'appareils électroniques partout, et j'étais là, ok, ils vont bien, bon, ok, pourquoi pas. J'avoue que moi, ce que j'ai réalisé après, c'est j'ai dit, je suis désolée, mais le fait d'avoir un héros, une fois de plus, un mec hétéro blanc, mais qui pour une fois essaie de faire le bien et vigilant, a pas l'air parfait. Mais il est pas en train d'être volontairement dark, volontairement tourmenté, donc il crée des problèmes pour les autres. Au contraire, il a envie de faire le bien, il a envie de comprendre, il a envie d'aider, il a envie de... Et c'est agréable, quoi, c'est agréable à regarder,
oui,
c'est touchant.
Ça change des fictions au lit masculin où c'est des héros... des héros masculins romantiques tourmentés et noirs à l'intérieur, mais en même temps pas trop, et puis d'un autre côté des femmes victimes. C'est pas le cas, quoi. J'ai eu le sentiment à la fin des deux premiers épisodes, c'était pas le cas totalement de tout le monde, que quand même c'était une série majoritairement avec des personnages actants masculins. Je trouve que les personnages féminins, et attention, après je vais mettre un bémol tout de suite, ne sont pas aussi mis en avant. Il y a un personnage féminin d'une étudiante que je trouve génialissime, qui était la meilleure amie de la victime.
Elle est hyper intéressante, hyper touchante.
Je suis hyper impatient de l'avoir plus développée.
Oui, c'est ça, on a très très envie de voir la suite.
C'est ça. Il y a une prof aussi qui est très intéressante, mais qui a aussi très peu de temps à l'image. Mais par contre, on n'a pas l'impression que c'est uniquement drivé par des mecs. C'est-à-dire que les femmes sont là, on sait qu'elles sont là, elles sont actives, elles sont pas juste observatrices ou en arrière-plan.
Ou
objet de désir. D'ailleurs,
il y a tout un truc là-dessus. Il y a tout un truc là-dessus avec un prof qu'on sent tout de suite un peu limite avec les jeunes filles, et c'est vachement appuyé. On parlait du fait en sortant que c'est incroyable, parce que clairement tu sens la perversité et le côté néfaste du type, et en même temps la caméra te le montre, mais la caméra elle n'est jamais perverse dans son regard, dans sa façon de filmer les jeunes filles. Et tu m'as dit en sortant, oui, d'ailleurs le réalisateur, j'ai dit, je crois que c'est une réalisatrice, et c'est peut-être pour ça. Mais ça caractérise aussi le personnage principal, qui lui voit tout de suite ces choses-là et qui est hyper mal à l'aise vis-à-vis de ça tout de suite, et vigilant. Pas juste mal à l'aise, je veux pas regarder, je m'en vais, mais aussi le côté, ok, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je dois faire quelque chose, et ça c'est juste hyper agréable.
Et
on a dépassé les 5 minutes, on s'était dit 5 minutes par série, et là c'est les 5 minutes.
Non mais il y a ce plan qui traduit énormément la manière dont c'est filmé, parce qu'en fait à un moment il dit au personnage de l'étudiante principale, il dit, t'as oublié d'enlever ton chasuble. Donc elle se retourne, elle enlève son chasuble, et là où un réalisateur, pour le coup, serait peut-être tombé dans la concupiscence et se serait attardé sur elle enlevant le chasuble, même si le truc n'a rien d'érotique, le fait de montrer une adolescente enlever le haut dans ce contexte-là aurait pu le devenir. Là, la réalisatrice, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe au moment où elle soulève un petit peu, elle change d'angle, ça change de perspective et du coup il n'y a pas ce regard néfaste. Le regard néfaste, on l'a quand on est en point of view de ce prof absolument débectable. Et du coup ça nous parle tout de suite et on est vraiment dans... en fait on n'est pas avec lui, on le regarde être pervers.
Oui, c'est
et
ça.
C'est... Du coup, ça me rend pas mal à l'aise et c'est pas néfaste qu'en fait à regarder.
Donc, du coup, moi, je trouve que ce qu'on peut tirer de trucs, surtout pour les gens qui vont pas pouvoir voir la série ou même nous si on voit pas la suite, c'est que c'est pas grave de faire la même histoire. Tu crées des personnages, si tu montres un lieu qui existe pas, c'est pas grave en fait. Moi, ça me dérange pas que l'histoire on l'ait déjà vue 5 fois parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu 5 fois.
Non,
parce que
la tragédie
est ordinaire, mais les personnages sont différents.
Ouais.
Et puis les thématiques et les problématiques du personnage principal, la raison pour laquelle ils sont là, ce qu'on comprend dans l'épisode 2, sont vraiment, moi, ça m'intéresse. Et,
ouais, ouais.
Et voilà. Donc c'est pas grave de faire la même histoire, ami scénariste, ami producteur.
Faut et pas juste essayer de copier.
Voilà, c'est ça. Si t'as un truc à apporter et à dire, moi je peux comprendre qu'on regarde une série, que tu dises putain, j'adore cet univers, mais j'aurais voulu qu'il parle de ça, ça, ça.
C'est ça.
Et que du coup, tu crées quelque chose de similaire. Donc voilà, série numéro 2, c'est moi qui l'ai vue toute seule, donc je vais en parler. J'ai vu que le premier épisode, c'est Fatal Station. C'est un truc canadien-québécois. C'est une coproduction française. Alors, ça a été présenté comme un western.
Je pense que...
Ouais, mais en même temps, j'ai dit que c'était dans les conditions du live, donc on va rester. C'est pas grave, vous avez entendu 30 secondes de silence. C'était un western québécois dans le Grand Nord québécois. J'ai vu qu'un seul épisode, pas que le deuxième épisode est décevant à côté. Moi, ça m'a pas super intéressé. Il y a beaucoup de mecs qui se comportent de façon un peu désagréable et perverse. J'en ai un peu marre, le fait que tu vois quelqu'un qui a l'air sympathique et puis tout d'un coup, tu le vois... Il essaie de draguer une nana, elle lui dit non, du coup il a un petit acte de violence physique, pas très grave, mais un peu justement intrusif, et ça paraît presque normal, et t'es là, est-ce que c'est vraiment obligé d'être systématique ? Alors c'est l'histoire, le pitch, c'est l'histoire dans une petite bled paumée, où en gros pareil, il y a une famille qui a la main financière sur tout le village qui fait que 1800 personnes, et en gros il y a des flics une fois par semaine, donc apparemment c'est un lieu où les gens essaient de se cacher quand ils sont chargés par la police.
D'accord.
Et il y a une femme qui est apparemment à cause de la première scène on suppose poursuivi par un de ses ex ou en tout cas un mec qui lui veut du mal, qui veut s'installer et qui n'arrive pas à s'installer parce que la cheftaine de la ville, Madame O'Gallagher qui possède apparemment toutes les habitations louables de la ville, enfin c'est dit, veut pas d'une étrangère qui vient et elle dit ça c'est une des meilleures scènes, elle dit elle vient, elle va vouloir du travail, elle va vouloir un homme, qu'elle aille faire ses dérangements ailleurs.
Ses dérangements,
j'aime. Et du coup c'était pas assez intéressant, mais en même temps peut-être que ça va devenir quelque chose, et là t'as le moment où tu fais un choix et puisqu'on m'a dit l'épisode 2, non pas trop, et donc tu vois on est encore, pour le coup il n'y avait pas de meurtre d'enfant donc c'était cool, mais on était encore dans la petite ville avec les gens un peu bizarres et les machins, et ils m'ont pas donné assez à manger. Ils m'ont pas assez intéressée avec leur personnage qui avait l'air un peu trop. Léa a dit c'est forcé. Je pense que c'est ça le mot juste. C'était une série un peu trop forcée. Donc pour l'instant, non. Pas spécialement plus à voir sur Fatal Station. Toi, tu as vu.
J'ai vu Heaven.
Donc vas-y, parle-nous de Heaven.
Donc, qui est une série japonaise. Mon rapport aux séries japonaises, c'est un petit peu. J'ai très envie d'en voir et finalement, j'en vois quasiment jamais. Mais ça a toujours été un monde sériel qui m'a intéressé. Et quand je parle de monde sériel en live, pas en dessin animé, parce que ça j'en ai consommé, j'en consomme encore un petit peu maintenant. Donc Heaven, ça parle de quoi ? Ça parle de... On commence chez un couple qui a à peu près la cinquantaine, et un feu qui se déclare dans leur maison. Et là, tu les vois, ils commencent à essayer de soulever les lattes de leur plancher en disant « faut qu'on parte avec Akana, faut qu'on sauve Akana ». Et bah, ils n'ont pas le temps, le plancher vient pas, donc ils sortent. Et là, il y a les policiers qui arrivent, tout ça. Et là, il y a le père qui dit « est-ce que vous avez pu sortir ma fille ? Elle est toujours devant. » Elle est toujours devant, mais il n'y a personne. Et en fait, il dit « ma fille, les restes de ma fille sont enterrés sous la maison. Je l'ai tuée il y a 16 ans. » Et c'est le point de départ. Ok. Très bon teaser. Et derrière, ça provoque une enquête d'une journaliste qui est traumatisée par une enquête qu'elle avait suivie sur un meurtrier en série de femmes et qui est mise en rapport avec une mère qui a un fils qui visiblement a développé un pouvoir et est capable de retranscrire les pensées des gens qu'il croise. Et donc il fait des dessins depuis des années. Et il y a un dessin qui met en scène plus ou moins l'incendie qui a eu lieu dans la maison et qui matérialise le fantôme de la jeune fille, sauf que c'est un dessin qu'il a fait il y a genre 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il y a plein de trucs super dans cette série-là et j'aimerais vraiment l'aimer et avoir envie de poursuivre. Et en fait, j'ai une vraie attirance pour les séries japonaises et pourtant j'admets le gap culturel qui nous sépare. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et d'apprécier. Et du coup, des fois, ça peut un petit peu décontenancer. On peut trouver ça un peu hystérique, un peu surjoué et tout ça, mais c'est traditionnel chez eux. Et une fois qu'on passe cette barrière-là, c'est un peu comme les pyjamas dans Star Trek, on peut trouver des trucs intéressants. Mais malgré tout, je trouvais ça hyper pompier. Et j'ai surtout trouvé ça hyper scolaire dans sa façon de développer l'intrigue. En gros, si jamais deux personnes ont une conversation et que quelqu'un dit « j'ai parlé avec un tel et il m'a dit ça », et ben là, on a le flashback qui nous montre la conversation avec l'autre. Et ça fait des allers-retours sans arrêt comme ça, mais de manière toujours très, très, très didactique. C'est « j'annonce, je montre ». Et je crois que la fin du premier épisode est une fin des plus pompières que j'ai jamais vue, quoi. C'est en gros.
C'est bien que j'ai dit qu'on ne spoilerait pas trop.
Non, non, mais justement, je vais prendre l'exemple de l'épisode Cherry Bobbins des Simpsons, où t'as donc Cherry Bobbins qui est une relecture de Mary Poppins dans les Simpsons. Et Cherry Bobbins, donc, à un moment, part, et t'as Homer qui se retourne vers Bart, et Bart lui dit « Tu crois qu'on la reverra un jour ?» Et Homer dit « J'en suis sûr, mon chéri, j'en suis sûr. » Et là, Cherry Bobbins se prend le réacteur d'un avion et est complètement ventilé. Et il se passe relativement la même chose à la fin de l'épisode 1. Où en fait, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je pense que la clé, c'est ça. » Et derrière, oups, on tue la clé. Ah bon, ok. Dans la seconde qui suit.
Non, moi, je trouve pas ça pompier, je trouve ça plutôt...
C'est tellement verbalisé. Quand elle explique que c'est la clé, que c'est cette personne-là qui va l'aider...
Ok, voilà, arrête, parce que moi, j'ai regardé trop l'épisode, tu es en train de complètement me spoiler, mais...
T'as les violons qui se mettent en
route. Je suis vraiment du coup, mais moi, quelque part, c'est le genre de truc, ça me... Enfin... Là, la façon dont tu le décris là tout de suite, ça me donne envie de le voir. Après...
Ah, mais après, tant mieux si ça donne envie de regarder aux gens. Et après, il y a aussi le personnage de Officer Obvious, donc qui est un flic à un moment qui a une conversation avec la journaliste. La journaliste qui est marquée par une affaire depuis des années, et à un moment, il la regarde. Je crois que tu es hanté par cette affaire. Non, sans rire. Sans déconner.
Ok.
C'est plein de petits trucs comme ça qui me déroutent. Après, je reviendrai de manière globale quand on fera un bilan de la journée sur un truc qui m'a frappé aujourd'hui, c'est le montage des séries.
Du coup,
on en reparlera un petit peu après.
Justement, en parlant de montage de séries, parlons réalisateur. On a vu aussi le premier épisode d'une série documentaire qui s'appelle The Art of Television.
Yes.
Donc en gros, c'est Charlotte Bloom, qui est journaliste pour OCS, qui a fait cette série documentaire. C'est des épisodes de 26 minutes. Il y en a 6. Et nous, on a vu celui sur...
Alan Poole,
qui a notamment été réalisateur. Le premier série sur lequel il a été réalisateur, c'était Six Feet Under, mais il était aussi producteur sur cette série, donc il a été très impliqué. Il a été aussi producteur-réalisateur sur Big Love et sur The Newsroom, et il a fait d'autres trucs entre les deux.
Il a fait d'autres épisodes sur Rome, The Wire, enfin, en gros, toutes les séries que les critiques français aiment.
Voilà, et en gros, et donc le documentaire, c'est vraiment des entretiens, un entretien avec lui et quelques autres personnes autour et qui sont liées à son travail, autour de son travail, et on est vraiment sur le... C'est quoi d'être réalisateur de télévision aux États-Unis ? Comment ça marche ? Comment il en est arrivé là ? Voilà. Et on est dans des choses assez, assez techniques, mais pas dans le sens technique et hermétique, mais plus assez concrètes. De vraiment raconter les approches du travail et la réflexion autour et les contraintes et ce genre de choses. Alors toi, The Art of Television ?
Globalement, j'ai trouvé ça, au niveau du propos, hyper intéressant. C'est bien aussi de parler du réel et pas seulement du créateur et du showrunner, parce que le réalisateur a comment dire, des choses intéressantes à dire, et puis sa position là-bas est intéressante, et surtout la façon dont ils vivent leur position, qui est absolument pas la même. C'est-à-dire, si on faisait la même chose avec certains, pas tous, attention, réalisateurs français, on crierait à l'hérésie.
Mais moi, en même temps, ce qui me fait rire, c'est que ça donne envie de faire un documentaire sur les scénaristes français, qui sont aussi, qui sont dans la même position assez similaire.
On écrit un truc et après on s'en va, quoi.
Voilà, et donc eux, ils réalisent un truc et ensuite ils s'en vont, parce que c'est les producteurs qui ont, et souvent le producteur exécutif qui est souvent l'auteur principal, qui a la main sur la série, et eux ils ont que quelques jours pour donner une version du montage.
C'est ça. Et donc c'est hyper, je trouve ça hyper intéressant. J'avais vu un truc similaire sur la série Homicide, et Martin Campbell qui était venu réaliser un épisode et qui expliquait un petit peu, lui pour le coup Martin Campbell faisait majoritairement du cinéma, donc ça l'avait un petit peu, enfin voilà, c'était une procédure qui le satisfaisait pas à 100%, parce que je pense que quand t'as travaillé en tant que réalisateur de Cinoche, après faire de la télévision et t'apercevoir finalement t'as plus de contrôle, ça doit être un petit peu déroutant, ça je veux bien comprendre. Visiblement c'est pas du tout c'est pas un souci chez Alan Poole, même s'il dit clairement qu'il préfère quand il est aussi producteur des séries sur lesquelles il travaille, parce que du coup il peut toucher à tout, ce qui est tout à fait naturel. Après je pense que bon, j'en ai vu qu'un, donc c'est un peu compliqué d'avoir un regard d'ensemble. J'ai un peu l'impression que le côté le format de la série documentaire joue pas totalement en sa faveur, parce que du coup c'est pas des épisodes thématisés, c'est un épisode, un réalisateur ou une réalisatrice, et ça donne un truc peut-être un peu trop linéaire, moi j'ai trouvé. Voilà, un petit peu trop linéaire. On a fait la carrière d'Alan Poole, il a dit des choses, attention, hein, hyper intéressantes, et franchement les 26 minutes passent sans aucun problème. Mais c'est vrai que j'en venais à me demander si ça avait été un truc peut-être un petit peu plus déconstruit, un petit peu on passe d'un réalisateur à l'autre. Là, j'ai pas l'impression d'avoir été happé dans quelque chose. J'ai vu un bout d'un truc. Donc, voilà.
Alors, moi, je trouve ça super qu'ils aient fait ce travail-là. Et en fait, c'est rigolo parce qu'ils disaient que c'est pas quelque chose qui se fait. Enfin, que les Américains eux-mêmes étaient surpris de leur approche et qu'ils avaient envie d'en parler et qu'ils étaient étonnés qu'on leur. Qu'on s'intéresse à ce travail-là, et je pense
comme quand tu parles à des scénaristes français, c'est rigolo.
Ouais, tu devrais le savoir. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que justement, je suis hyper contente qu'ils aient fait ça, qu'ils soient allés aux. Et puis tu vois, clairement, ils sont allés à Los Angeles, ils ont rencontré des gens, ils ont filmé des trucs. Voilà, j'ai un gros souci avec la prod. J'ai un gros souci, j'avoue. En fait, avec la réalisation même. Je trouve Charlotte Bloom très intéressante quand toutes les interventions que j'ai vues d'elle, ou j'ai vu une masterclass notamment qu'elle a fait avec Lena Dunham qui était super et tout. Mais j'avoue que je trouve que c'est un peu trop scolaire. Mais voilà, il y a un problème dans la narration pour moi. Enfin, un problème. La narration est trop scolaire et trop. Et du coup, dans le sens où ils suivent ce que le type a à dire, mais il n'y a pas vraiment un point de vue. Il n'y a pas de point de vue. En fait, il n'y a pas du tout de point de vue. Il n'y a pas d'angle. Tu sais pas. Où ça va en venir, ça ne raconte pas une histoire, tout simplement. Ce qui, je trouve, problématique. Et en plus, il y a un truc dans la prod même. Alors, il y a deux choses. Les graphismes sont super bons. Deux, trois fois, il y a des effets graphiques qui sont faits à l'écran pour expliciter quelque chose qui est dit. C'est hyper bien. Et vraiment, c'est joli, c'est intelligent et tout. Par contre, il y a tout un habillage de trucs qui est fait avec des photos, des stills, des images des séries dont on parle. Et aussi toute une mise en scène esthétique derrière lui qu'ils ont fait avec un mur, avec des photos et tout. La façon dont ils filment les photos. Et ils foutent des... On est d'accord, c'est des flares. Ces espèces d'effets de lumière qu'ils font sur les trucs. Tu vois les images.
C'est J.J. Abrams dans certains films.
Oui, sauf que là ça ne ressemble pas exactement des flares, parce que ce n'est pas un truc avec l'objectif de la caméra. Mais c'est plus, ils rajoutent des espèces de lueurs rouges qui passent sur l'image et tout. Ils font ça tout le temps. Et puis il y a des trucs, c'est genre... Ils filment un mausolée, ils filment une tombe parce qu'ils sont en train de parler de Six Feet Under. Et je trouve que...
C'est
comme s'ils essayaient de reproduire des images de Six Feet Under sans que ce soit Six Feet Under.
Parce qu'ils n'ont pas de droit, en fait.
Ouais, mais moi, dans ce cas-là, enfin, non. Enfin, peut-être, je comprends. Je ne juge pas moyens, et j'en suis désolée. Mais ça, et la musique.
Petit clin d'œil à Empreinte Digitale. qui est donc le producteur de ce
documentaire. Oui, que d'ailleurs j'ai rencontré, j'ai réalisé que je connaissais le mec parce qu'on a fait un truc ensemble à Comic-Con et j'étais là, mais il me dit quelque chose.
J'avais participé à un de leurs documentaires sur, comment dire, le titre du documentaire c'était L'Amérique et ses fantômes, c'était pour la sortie de la première saison de American Horror Story. Et ils avaient ce problème-là, en fait. Et ils ne pouvaient pas montrer une seule image de la série, même si c'était pour la chaîne qui diffusait la série. C'est, genre, on marche un petit peu sur la tête. Et donc, ils devaient faire avec des photos promo. Et ils avaient recruté un graphiste très talentueux qui avait fait de l'habillage tout le temps.
Bah, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Hein.
Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, ils ont de l'expérience là-dedans. Mais c'est... Je trouve ça hyper problématique, quoi. Surtout que bon, les séries en question, il y en a certaines qui sont diffusées par OCS, donc tu pourrais croire que, étant donné que la série de documentaires est sur OCS, ça peut se faire aussi, mais visiblement ça se fait pas. Donc ils ont pas les extraits, donc ils doivent faire sans les extraits. L'idée qu'ils ont eue, je suis assez d'accord avec toi, c'est pas forcément la meilleure.
Là, mais tout après, de suite, en fait, après il y a une idée, toutes les idées sont quelque part bonnes. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, je suis, tu sais, partisane de la problématique de l'exécution, c'est-à-dire que le nombre de fois où on regarde des séries, j'en dis ah mais c'est parce que machin il a tué machin, il aurait pas dû faire ça, ou ah oh, ils auraient pas dû se remettre ensemble. Et généralement, je suis assez rarement d'accord sur le fait que c'est ça le problème. Mmh. Le problème, c'est l'exécution. Mmh. Et le problème, c'est le goût. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui a du goût. Et du coup, quand tu regardes le truc, tu dis c'est moche, c'est pas moche, ça marche pas.
Oui, oui.
Et je trouve que ça, c'est donc ça dessert le propos, ces images, surtout quand tu parles de réalisation et tout. Ouais. La musique, c'est pareil.
Ouais.
Je trouve la musique d'accompagnement, c'est ça fait musique libre de droit, mais enfin, tu vois, pas joli. Mmh. Et donc du coup, voilà, je dis pas que c'est facile, mais il faut chercher un truc joli. Et du coup, je trouve ça dommage. Voilà. Après, bien sûr, j'ai envie d'en regarder les autres parce que j'ai envie de savoir ce qu'ils ont à raconter.
Ouais,
mon souci principal, finalement, à la fin, et c'est le problème que j'ai avec tous les documentaires qui manquent un peu pour moi, c'est que est-ce qu'une personne qui n'est pas spécifiquement intéressée par ça va regarder ça et comprendre quelque chose et en tirer quelque chose ? Et je pense que non.
Ouais.
Et je parle pas de quelqu'un intéressé aux séries, je parle même... Il faut vraiment que quelqu'un soit intéressé par la réalisation des séries.
Ouais.
Il n'y a rien là qui t'emmène. Alors bien sûr, si tu décortiques, si toi tu l'as vu et t'en parles à quelqu'un qui s'intéresse et disait mais tu sais en fait le réalisateur, oui tu auras des choses à dire, mais tu pourrais pas lui demander de regarder ça ces 26 minutes et d'être emporté et d'être intéressé. Et pour moi ça devrait être le critère. Mais j'ai souvent ce problème là avec la production française en général, hein, que on se parle entre niches, on fait les choses pour les gens qui sont déjà intéressés, et je trouve ça dommage. Après c'est un choix. Et je suis quand même plus contente que ça existe que plutôt que ça n'existe pas, bien entendu. Maintenant, j'aurais aimé que ce soit encore mieux. Voilà, tout simplement. Ok, ensuite on est retourné aux séries. On a fait un virage. On est allé voir la série russe. Pour la petite, la première série russe, parce qu'il y en a deux qui sont montrées en séance et il y en a quatre dans la salle des collections. Alors moi, pour la petite histoire, la série russe, ce qui est rigolo à savoir, c'est que j'ai eu des problèmes pour avoir des places pour les trucs les plus demandés pour Salimania, parce que quand j'ai commencé à aller sur la billetterie, le premier truc que j'ai booké, c'est les séries russes, en ayant l'impression que ce serait le truc le plus difficile à avoir. J'étais là, il y a une série russe, il me faut tout de suite le billet pour la série russe et la série japonaise. Et en fait, après j'ai réalisé, ah non, c'était Damon Lindelof qu'il fallait booker en premier et Juliana Margulies, oui bien sûr, c'est ça les stars. Et donc voilà, donc ça a beaucoup fait rire mes amis. Donc oui, et donc j'ai réussi à avoir un billet pour Better Than Us dans une salle qui n'était pas complète. C'était dans la plus grande salle par contre du Forum des Images.
Ouais, il y avait quand même... C'était pas ras la gueule, mais c'était quand même pas mal.
Alors donc, Better Than Us, série russe dont le titre original est Luce Chem Ludi, ce qui veut dire mieux que les gens.
C'est ça.
Et pas mieux que nous. Mais apparemment, la personne qui s'occupe de la distribution, la distributrice, je ne sais pas que c'est un mot, m'a dit qu'ils avaient beaucoup réfléchi à la question et qu'ils trouvaient ça plus ambigu et donc mieux de mettre us plutôt que de mettre les humains. Ce qui aurait été l'alternative pour eux. Alors, tu veux pitcher Better Than Us?
Oui.
Sans spoiler. Je pitch.
C'est compliqué parce que t'as quasiment deux histoires en une hein, dans le premier épisode. Donc, d'un côté, ça suit le quotidien d'un coroner, d'un
comment dire, médecin légiste.
D'un médecin légiste. Donc qui est séparé de sa femme et qui a une problématique de garde d'enfants avec elle. D'un autre côté, on suit les pérégrinations d'un robot qui vient d'être acquis par une entreprise donc, qui fait de la revente de robots fabriqués au Japon, je crois.
Mais je pense pas que ça, c'est vraiment les sujets pour les gens qui ont pas vu la série.
Le fait que c'est de la revente. Le réalisateur l'a dit. Nous, les Russes, c'est clairement pas un truc qu'on ferait, donc forcément, c'est les Japonais ou les Coréens.
Nous, on ferait juste
de la revente. Ouais.
Mais déjà, c'est un monde où il y a des robots.
Et donc,
partout.
C'est un monde légèrement futuriste, c'est censé se passer dans 3-4 ans, où les robots cohabitent avec nous en tant que serviteurs de tout poil. Il y a des robots qui ressemblent au bonhomme au cédar avec un visage. Et t'as des robots beaucoup plus perfectionnés qui ressemblent pour la plupart à des sex dolls, hein, soyons clairs. Et un de ces robots a un comportement qui dénote un petit peu et qui s'échappe de l'entreprise où elle a été acquise et qui crée un petit peu le bordel autour d'elle.
Voilà. Et j'ai adoré.
C'est vachement bien.
C'est vachement bien. J'ai trop envie de voir la suite. En plus, je crois qu'il y a 16 épisodes.
C'est ça.
Ce qu'il a dit. Et donc, on a vu les deux. Ils sont encore en train de tourner. Ils ont 20 jours de tournage. Ça devrait être diffusé. Ils espèrent à l'automne en Russie. J'espère qu'elle va arriver. J'espère que j'ai tellement aimé que je vais.
Mais vous la verrez jamais comme on l'a vu.
Je vais. Oui, c'est ça. Alors, ce qui était hyper drôle déjà, c'est que dans le quota sympathie, le créateur a créé l'événement justement en disant bon, alors je vous préviens, on n'a pas tout fini. Ça a été fini un peu rapidement. Du coup, il manque des scènes dans le premier épisode, mais je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte. Puis dans le deuxième épisode, vous étonnez pas si à un moment il y a des surfaces et les gens tapent dessus comme ici il se passait des choses et il n'y a pas l'animation. Parce que vu qu'on est dans un futur d'anticipation, il y a beaucoup de choses, de beaucoup de technologies qui sont notamment. Effectivement,
des tables où apparaissent des écrans.
Voilà, et donc tu vois les gens taper sur la table ou taper sur le poignet.
Et il y a une sorte de molette qui ne tient sur rien.
Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un moment où il y a un. Donc, ils ont clairement leur téléphone et tout apparaissent sur leur bras. Et il y a un moment où il n'y a rien qui apparaît sur le bras, mais il y a le sous-titre.
C'est ça.
Pour nous dire ce qu'il y avait.
Et puis, ce qui était très drôle, c'est que ça allait en gradation. Et puis, à un moment, vous étonnez pas, mais on n'a pas fait le doublage avec le comédien. Donc, ce que la voix que vous entendrez, c'est l'assistant réalisation. Et puis à un moment c'était quoi l'autre truc
je sais plus, mais le dernier truc était pas. Ah oui, et donc à un moment, vu qu'on n'a pas tout fini, vous allez voir, il y a des
on voit le cadreur
dans l'image.
Et à un moment, je me suis retourné, j'ai dit pendant 10 minutes en fait c'est mon film de vacances.
Mais le truc, c'est qu'il l'a dit hyper sympathique, c'est que le public était mort de rire et avait déjà envie de l'applaudir.
Ouais.
C'était pas du tout dérangeant, c'est là que tu vois que c'était vachement bien.
On l'a applaudi. Ça nous a fait sourire forcément, parce que quand on voit quelqu'un tourner une salière sur une table et entendre une voix off dite par quelqu'un, parce que clairement devait y avoir un écran dessus, forcément ça fait sourire, mais ça fait sourire sans faire sortir du récit, et ça c'est pas rien en fait.
Et en gros, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit sur le truc, à part les personnages ont tous une existence. Il y a ce mot en anglais compelling, tu vois, ça t'engage, ça t'implique, t'as envie de savoir ce qui se passe, ils sont intéressants, ils sont pas juste clichés, ils essaient de faire des choix, ils essaient de faire des choses. Et en plus de ça, il y a un commentaire, enfin il l'a dit dans les quelques questions qu'on a eues après, il y a un vrai commentaire politique, il y a un truc, en plus il a bien insisté sur le fait que c'était inspiré aussi de science-fiction qui avait écrit sous des états, dans le contexte d'états totalitaires, et il dit vous avez compris, hein, il a demandé au public, vous avez bien compris hein, que les robots sont traités comme on traite les immigrants. Les immigrés, d'ailleurs, on dit en français, c'est à cause de cet horrible mot migrant qui se prolifère partout que je dis immigrant, mais c'est immigré. Enfin voilà, il avait plein de choses intéressantes à dire, et tu sens que du coup, tu sens qu'il y a un vrai propos, tu sens que ça va aller quelque part. Pour lui, ça parle de l'humanité, ça parle pas tant de l'humanité potentielle des robots, mais de la tentative des humains de garder leur humanité, et ça, et bah, du coup, ça donne envie de regarder, parce que tu sais qu'il a des choses à dire, quoi. Il a des choses à dire, et dès le départ, il raconte une vraie histoire.
Ouais.
Donc c'est pas juste qu'il y a des choses à dire qui plaquent sur des archétypes, c'est qu'il va raconter la vie de gens, quoi.
Et surtout qu'on m'avait très mal pitché cette série en me disant que c'était un mélange entre Real Humans et Nikita.
Sérieux ?
Oui. Je ne nommerai pas cette personne parce que, au demeurant, je la trouve très sympathique, donc je ne veux pas non plus lui jeter l'opprobre en direct. Pas du tout. Mais vraiment pas, en fait.
Mais voilà.
Vraiment pas.
Donc non, franchement, Belle Zonas, trop envie de voir la suite. J'espère que je reverrai la suite, et j'espère surtout que j'aurai l'occasion de, du coup, d'en reparler. Et ensuite, on a terminé la soirée par Seven Types of Ambiguity, qui est une série australienne co-créée par le mec qui a fait The Slap, donc qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques années, et qui est tirée d'un roman apparemment assez connu. Et le principe, c'est qu'il y a 6 épisodes, et chaque épisode est du point de vue d'un autre personnage, d'un personnage différent autour d'une histoire.
Comme The Slap.
Voilà.
C'est un peu leur traînement.
Et moi, j'adore ce genre de truc. Et je voudrais pas non plus spoiler l'histoire, parce que pour moi, pour le coup, il y avait un truc qui était dans le résumé que moi, je savais pas parce qu'on l'avait pas lu jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Et remarque, ça, du coup, on va pas pouvoir faire la blague qu'on avait tout à l'heure. Mais voilà, limite, remarque, vu comment on se plaint de ce genre de sujet, peut-être qu'on va le dire. Donc en gros, le résumé dans le catalogue Soy Mania commençait par Sam, 7 ans, disparaît subitement. Et je lis ça à Dom, j'arrête de lire le truc en disant oh là là, encore un gamin qui disparaît. Et Dom, là, rigole et dit ouais, sauf que là, il revient. En pensant faire une blague super drôle. Et en fait
c'est exactement ça.
Au bout d'un quart d'heure, il retrouve le gamin sain et sauf. Et là, moi, j'étais là.
J'étais fier de ma connerie. Je me disais, oui, bah voilà. Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui disparaît et il revient et tout se passe bien et on raconte autre chose. Mais.
Et en fait, c'est exactement pas
tout à fait ça, mais quelque part, ça l'est un petit peu quand même.
Et donc, effectivement, du coup, c'est vrai que c'est hyper agréable.
Quand je fais des blagues débiles, en fait, faut que j'aille les pitcher chez un prod parce que visiblement, ça marche.
Et du coup, le premier épisode est sur le père de ce gamin, et le deuxième épisode est sur un personnage très éloigné. Vas-y, prends. Ah, tu prends mon dernier truc vert. Non, mais on le partage. Il est en train de prendre mes bonbons Haribo pendant qu'on parle. Oui, celui-là, il est très bon aussi. Non, parce que je suis allée récemment, si Jean me suit sur Twitter, à la fabrique Haribo, et j'ai ramené quelques provisions à Paris. Et non, franchement, moi, ça m'a énormément plu. Les deux épisodes, j'ai aimé. Les personnages m'intéressent. C'est deux types de personnages radicalement différents qui sont dans le premier et dans le deuxième. Du coup, moi, je suis dedans. Ça vient de commencer en Australie hier soir, donc ça veut dire que les épisodes vont être probablement trouvable dans un futur proche, et je suis hyper contente. Moi, je vais voir la suite, surtout il y a que 6 épisodes. Moi, je dis on a vu 2, il y en a plus que 4. Ouais, moi je suis vendue. Toi?
Moi, je sais pas, en fait. Je sais vraiment pas. J'ai l'impression de vouloir pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire j'ai pas forcément envie d'en savoir un peu plus sur ces personnages, j'ai envie juste de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je sais par expérience que c'est pas une bonne raison pour moi de continuer à regarder quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs. J'ai pas détesté, loin de là. J'ai trouvé le deuxième épisode plus touchant et plus touchant que le premier. Le premier, je suis resté un petit peu en marge. J'étais pas convaincu forcément par le personnage joué par Alex Dimitriadas.
Hartley Cœur à vif.
Même si lui il est très bien dedans, y a pas de souci. Je sais pas, j'ai pas grand chose de mauvais à dire sur cette série, à part que je suis pas persuadé d'avoir envie de continuer. Par contre, la perf d'Hugo Weaving dans le deuxième épisode est assez remarquable.
Matrix.
Mr. Anderson. D'ailleurs, si vous voulez me recruter pour faire des imitations, je peux faire des imitations. En plus, je peux le faire comme les imitateurs français, c'est-à-dire que j'annonce qui j'imite et j'imite ensuite, comme ça vous vous trompez pas. Vous dites, ah oui, putain, il imite François. Ah non, en fait, il imite pas François Hollande parce qu'il nous a dit au début que c'était pas François Hollande. Donc voilà. Donc là, Hugo Weaving. Hello, Mr. Anderson. Vous voyez, là, vous reconnaissez. Si je l'avais pas dit, vous allez. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Voilà. Donc, globalement, la perte d'Hugo Weaving est excellente. L'histoire qu'il a racontée, moi, elle m'a un petit peu scotché. Mais malgré tout, ouais, je sais pas si j'ai envie de continuer, en fait. Le mystère J'ai envie de savoir comment il se résout, mais j'ai pas envie d'en savoir autant que ça sur les personnages. Je suis pas totalement hameçonné, loin de là. Donc,
C'était la première série aussi en compétition.
C'est ça.
Parce qu'il y a une compétition de 10 séries avec un jury international, dont Damon Lindelof, qui
était écrit... dans la salle, qui écrit... il portait un béret. Il est comme nous.
Qui écrit des trucs que je trouve ratés tout le temps. Bon, pas trop The Leftovers, ouais, parce que j'en ai pas vu assez. Mais moi, personnellement, la plupart des autres trucs qu'il a fait, j'ai... Enfin, voilà, Prometheus, Tomorrowland, de nombreux traumas. Mais par contre, que je trouve tellement sympathique.
T'as tellement envie d'être son pote et de discuter avec lui.
Et je suis sûre que ça lui a plu, pour le coup. Je me suis dit, ça doit lui faire... En fait, je me suis dit, c'est typiquement le mec, il doit vraiment s'éclater dans ce festival.
Ah oui,
avoir les séries internationales sur grand écran comme ça avec un public, je pense qu'il va rentrer à Hollywood, il va faire les gars, les Français, ils sont trop tarés quoi, ils font des trucs de ouf. Bon, voilà.
Tu veux dire qu'il va pas faire comme David Chase et partir au bout de 3 jours?
Mais David Chase, il pouvait pas rester plus de 3 jours, il avait décidé de partir autre chose, ça avait toujours été prévu comme ça.
Bien sûr.
Il n'y a pas dit vous êtes tous cons, je me bats.
Non, bien sûr que non, mais bon. Je pense que Lindelof, il s'est dit, tiens, je vais passer une semaine, de toute façon, The Leftovers, c'est terminé.
Oui, je peux rentrer chez moi. J'ai pas besoin de rentrer chez moi.
Je suis en hiatus.
Alors.
Ce qui est le cas de David Chase depuis à peu près 10 ans, donc. Mais non,
ouais. C'est clair. Mais peut-être qu'il y avait le baptême de sa petite nièce, hein, t'en sais rien. Alors, bilan du jour, montage. Tu voulais dire un truc intéressant sur montage.
Oui, j'ai été assez frappé, justement. J'étais assez surpris d'être autant surpris par les différences de montage. Et de façon de raconter les histoires en fait des séries qu'on a vues.
Surtout qu'à chaque fois c'est dans une petite ville où un enfant disparaît.
C'est ça.
Toujours la même chose.
On a perdu un gosse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le raconte? Et du coup j'ai trouvé que The Teach avait un montage pour le coup très anglo-saxon, très je zappe d'une scène à une autre, j'intercale une scène au milieu d'une scène. Du coup, c'est très anglo-saxon cette manière d'aborder les choses, en gros pour te garder toujours en éveil quelque part. Ça fonctionne bien pour The Teach, y a pas de problème. C'est artificiel parfois sur certaines séries. C'est créer du mouvement là où finalement il y a rien qui se passe. Là, il se passe des trucs, donc c'est assez, ça fait sens. J'ai trouvé le montage de Heaven. Bah pour le coup, pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, ça va, je reste assez cohérent avec mes propos. Assez pompier, quoi. On dit un truc, on le montre, on montre ses conséquences, et basta. Très scolaire, très, très didactique, et pas très heureux, quoi. Et j'ai trouvé le montage, par contre, sur Better Than Us, à l'extrême inverse de The Teach, c'est au contraire des longs tunnels. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il y avait deux histoires, donc l'histoire du père de ses gosses, du médecin légiste et tout ça, qui a ses problèmes de son côté, et l'histoire du robot qui s'évade, et l'entreprise qu'il avait achetée et qui le recherche de l'autre, c'est pas alterné réellement, quoi. C'est quasiment un acte chacun, jusqu'à la fin de l'épisode. Parfois ça se chevauche un tout petit peu plus, mais c'est pas énorme. Donc on a des longs passages de 10 minutes, 15 minutes sur un aspect, puis on passe à un autre et tout ça. Et on s'aperçoit que dans The Teach, le montage alterné fonctionne très bien parce qu'on avance comme ça et parce que ça te permet de garder le rythme. Sur Better Than Us, ça fonctionne tout aussi bien. On est vraiment happé avec les protagonistes, et puis on arrive à la résolution d'un aspect de leur histoire et on passe à un autre, donc ça a l'air un petit peu plus divisé un petit peu. Bon, on va raconter ça, puis on va s'arrêter, on va passer à ça, tout ça. Ça m'a rappelé Oz, en fait, pour ceux qui regardaient la série Oz, où en fait on prenait on avait une temporalité d'épisode, mais on prenait un personnage, on suivait ce qui lui arrivait, puis on zappait sur un autre personnage, on suivait ce qui lui arrivait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et chacun avait une portion plus ou moins longue. Il y en a certains qui avaient 10-12 minutes, puis l'autre 2-3 minutes, et on suivait tous les protagonistes comme ça, par morceaux, par tronçons. Voilà, c'est plus ou moins ce qui se passe. Et du coup, j'ai trouvé ça assez, je vais pas dire rafraîchissant, faut peut-être pas déconner non plus, mais changeant par rapport justement l'opulence de série qui passe. Là, on va faire cette scène-là, puis en plein milieu, on va cutter, on va passer à l'autre truc, puis on va revenir à ces protagonistes-là dans exactement cette scène-là pour montrer que ça se passe plus ou moins dans la même temporalité et tout ça. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir les deux.
En fait, ça s'installe, quoi. C'est-à-dire que tu peux vraiment un film narratif, c'est très presque comme un roman, en fait.
C'est ça. Et je pense que après, il y a aussi un côté organique, quoi. C'est ben non, on va continuer. On va
dérouler ce fil-là. Pour le coup, Seven Types, du coup, on arrive sur quoi ? Pourquoi ? Dans ton organisation du montage.
J'ai trouvé ça un petit peu plus putassier, en fait, sur le premier épisode, en tout cas. Le côté révélation. Là, c'est plus le côté montage plus musique. En fait, quand il y a des gros trucs, il y a
des trucs
un petit peu ridicule. Attention, révélation. Changement de scène. Par contre, est-ce que vous pourriez, les réalisateurs, arrêter de faire des stock shots en hauteur à la perpendiculaire du sol? Moi, ça me met super mal à l'aise à chaque fois. J'ai mon vertige qui se réveille instantanément. Juste vous décaler un tout petit peu la caméra de 10 degrés, pas grand-chose, mais un peu de biais. Mais alors, si vous êtes à la perpendiculaire à 90 degrés, vous me tuez systématiquement.
Mais il y en a pas mal dans Better Than Us.
Dans Better Than Us, c'est constant. Il y en a aussi dans
Seven Types.
Dans Seven Types. Et arrêtez. Ça me met mal à l'aise. Et puis, Better Than Us, le mec qui est au 15e étage, qui se met assis sur le rebord de son balcon, c'est vraiment pas sympa pour moi, quoi.
Alors moi, ma réflexion du jour, c'était par rapport, bien sûr, à la narration, puisque c'est mon truc. En fait, j'étais en train de réaliser que je regardais tous ces pilotes et je me disais, vu que je donne des cours sur l'écriture et que j'essaie de leur apprendre à écrire un pilote, et j'essaie de leur apprendre à écrire un pilote fonctionnel de série, c'est-à-dire... pour moi, une série, surtout quand on essaie d'apprendre à écrire des séries, après on peut faire ce qu'on veut une fois qu'on commence à créer, mais quand on est en train d'apprendre la technique, c'est important de pouvoir maîtriser le format épisodique. C'est quoi un épisode? Et du coup, ça veut dire que ben, dans ton pilote, tu présentes les prémices de ton concept, à la limite tu lances les arcs narratifs de la saison, mais t'as aussi une histoire qui est dans l'épisode. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des séries qu'on voit à Sériemania, c'est plus des formats mini-séries.
Ouais,
on est tout le temps dans des trucs où bah, t'es au début d'une histoire et t'as pas de résolution, t'as pas de satisfaction, Et pour le coup, je suis en train d'adorer la saison 3 de Broadchurch en ce moment. Et c'est vrai que je trouve que tu sens l'épisode quand même. Un peu plus, même si c'est une trame au long cours, tu sens un épisode. Et là, pour le coup, très souvent, je sens pas l'épisode, quoi.
Ouais.
J'étais en train de penser au milieu du truc, je dis, on est toujours dans le pilote, je dis, ouais, mais c'est pas vraiment un pilote, en fait, c'est juste un chapitre 1. Ouais. Et en fait, ça me frustre un peu que toutes les séries qu'on voit de l'étranger ne soient toujours que sur ce modèle-là. Et alors, ça veut dire qu'ils sont peut-être dans une dichotomie où la série procédurale qui revient est pas de très bonne qualité, et du coup, ils arrivent jamais jusqu'à nous. Et que du coup, on est sur de la série prestige internationale. Et la série prestige, du coup, est sur le modèle de toutes les séries prestige. Voilà. Et je trouve ça... en fait, je trouve ça frustrant. Et en fait, je trouve ça frustrant. Et surtout, je trouve que c'est pas très... Mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi un festival? Est-ce que, tu vois, prenons l'exemple de Cannes. Les films de Cannes sont hyper intéressants souvent. Il y en a plein d'intéressants, en tout cas. Moi, je ne les vois pas à Cannes, mais je les vois après. Mais par contre, effectivement, est-ce que c'est vraiment révélateur d'un film qui peut être montré au grand public? Pas toujours.
Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le... pour les séries présentes à Sériemania, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on a l'impression toujours de voir des séries qui sont ultra feuilletonnantes et qui sont presque des longs romans. Et les épisodes qu'on nous montre, c'est des chapitres. Mais c'est aussi parce que, justement, les festivals comme ça, les critiques, valorisent majoritairement ce genre de narration. Et du coup, ça transpire du côté des auteurs qui se disent « Ouais, j'ai envie de faire que de ça, parce que quelque part, c'est ça la qualité. » Enfin, alors que, bon, bah, en fait, tu trouves de... Enfin, moi, j'ai toujours tendance à te dire que tu trouves de la qualité de partout. Et que c'est pas parce que tu te lances dans un procédural que tu vas forcément faire de la merde. Il y a eu des très bons procéduraux dans le passé. C'est juste que ça, maintenant, c'est associé, comme chez les Américains, on a tendance à dire que bah, vaut mieux travailler pour le câble que pour les grands networks parce que t'es plus libre. Bon, après, évidemment, il y a des gens comme les Kings, donc ça n'a pas l'air de trop gêner. Mais
non, mais c'est ça, moi je trouve ça agréable, The Good Wife, qu'il y a un épisode, mais enfin Veronica Mars, Gilmore Girls, Everwood, Queer as Folk, Buffy, Friday Night Lights, Psych. Je veux dire, c'est des séries qui ont des épisodes. Friday Night Lights, est un truc au long cours, mais c'est des épisodes. Ils se regardent en épisodes. Et je trouve ça hyper agréable.
Et je ne sais pas à quel point le modèle Netflix influe aussi sur les autres. Je suis conscient que ça a bougé beaucoup de choses dans l'esprit des créatifs un peu partout. On entend beaucoup d'ailleurs n'importe quoi à ce sujet-là maintenant. Mais même si ça, quelque part, si ça transpire pas un petit peu partout, parce que t'as beaucoup de chaînes maintenant qui disent bon, bah maintenant on va vous balancer tous les épisodes d'abord sur le net et après on les diffuse. Parce que ça leur permet d'avoir deux fenêtres de diffusion différentes, hein, toucher des publics très différents. En gros, ceux qui téléchargeraient et derrière ceux qui regardent la télévision de toute manière en direct. Et du coup, est-ce que ça transpire pas sur l'écriture en mode, de toute façon, vu que ça va être balancé les 10 d'un coup, pourquoi s'embêter à essayer de faire des épisodes bien thématisés? De toute manière, au bout d'un moment, ça va être un bibouga de 10 épisodes et on a l'impression... Moi, je sais que c'est quelque chose contre lequel je me bats un petit peu, à la fois en tant que téléspectateur et en tant qu'auteur, c'est que l'idée de... film de 10 heures, film de 12 heures, mais m'exaspère au plus haut point. Je crois que t'as Alan Sepinwall qui a écrit un article récemment,
et d'ailleurs, elle a commencé par citer que dire que Hush de Buffy c'était le meilleur épisode de tous les temps. Continue, Alan, vas-y, je suis pour toi, je vais à la suite de ton article.
Alan Sepinwall, qui est peut-être même si tous les Français le connaissent pas, je pense que c'est le critique de série le plus connu au monde.
Peut-être, je sais pas. Pour moi, c'est Emily Nussbaum, mais bon, chacun sait. Elle vient d'avoir le Pulitzer en plus, donc le coup, Emily Nussbaum, mais elle n'est pas la plus connue, mais c'est... vous devriez la connaître. En plus, moi, voilà,
vous devriez la connaître. Mais le plus connu, dans le sens où ça a été plus ou moins le premier qui a lancé le trend du recap d'épisode. Donc, quelque part, c'est à la fois un peu un pionnier, c'est une figure très connue. Donc du coup, je pense que c'est...
Et puis d'accord, c'est lui qui a créé The Revolution Was Televised.
C'est ça.
Donc un livre sur les séries révolutionnaires depuis les années 90.
Et puis c'est un type foncièrement hyper intéressant qui sait de quoi il parle. Ça fait plaisir de temps en temps. Et du coup, donc il a fait un article sur la valeur de l'épisode en tant que tel, en tant qu'entité.
Oui, suite à des propos des mecs de Game of Thrones qui disaient...
C'est ça.
Mais non, Game of Thrones, c'est un film de 73 heures.
Voilà. Et okay. Justement, en rebondissant là-dessus, il dit qu'il comprend le point de vue des auteurs de Game of Thrones parce que, quelque part, vu le matériau d'origine, c'était compliqué de l'aborder de manière différente. Mais maintenant, un film de 73 heures, that sounds awful. Il le dit clairement. Et je suis d'accord avec lui. Et l'argument... massu balancé à tour de bras par les producteurs, souvent des producteurs français, des réalisateurs français, quelques scénaristes français qui disent c'est pas vraiment une série, c'est un long film de 6 heures. Moi j'ai envie de me trancher les veines parce qu'il n'y a rien qui sonne moins bien que c'est un long film de 6 heures.
Ouais.
Parce que je suis désolé, 6 heures.
C'est clair. Et non, et puis j'aime apprécier un épisode pour un épisode, voilà. Et d'ailleurs, moi, dans les trucs que je veux écrire, c'est pas des trucs procéduraux clairs, mais c'est clair qu'il y a une trame A, B et C par épisode, mais c'est ce que vous avez urgence aussi.
Mais bien sûr, mais c'est plaisant de se dire quelques années plus tard, tu te souviens de cet épisode de telle série, moi je suis désolé, j'ai adoré Jessica Jones, il y a peut-être un épisode que j'arriverai à ressortir, c'est l'épisode où elle vit avec lui dans la maison, parce que ça sort de la narration globale de la série. Mais ces séries-là, j'ai du mal à me dire « Ah, tu te souviens de cet épisode ?» Généralement, je me souviens de la saison. Et le seul truc que je peux dire, c'est « Oui, globalement, j'ai bien aimé quelques mois plus tard. » Mais je ne suis plus vraiment capable de pointer ce qui m'a particulièrement aimé, je trouve ça fort de
lancer un truc et d'arriver à le mener à bout sur 40 minutes.
Mais bien sûr. Et ça n'empêche pas de faire du feuilletonnant et ça n'empêche pas de raconter une histoire.
Et d'avoir la continuité, l'évolution
de pas avoir des personnages qui reviennent à zéro à chaque épisode.
Et un des trucs que j'adore dans Buffy, c'est justement le fait que t'as la grande histoire et mêlée à la. Et elle en sort jamais. C'est que chaque épisode, il y a quelque chose. C'est pas une scène qui est consacrée à l'histoire de la saison, c'est que tout d'un coup tu commences à ressentir le danger, tu commences au début de la saison, tu sais pas trop de quoi il s'agit, tu sais pas si c'est lié, si le truc qu'ils sont en train de vivre dans cet épisode c'est... Ben, tu vois, et tu sens, mais en même temps t'as la fin, t'as un épisode quoi, t'as une histoire qui est finie avec une résolution, positive ou pas à la fin.
Mmh.
Et ça je trouve ça hyper grave. Voilà, c'est tout pour la première journée, sinon on a vu le teaser de The Last Jedi et... Yeah!
Ouais, c'est pas mal. Non, mais je suis... Attends, c'est bon, je sais pas si je vais attendre 8 mois, quoi. Je vais essayer de créer une machine à avancer dans le temps, juste pour aller le voir, revenir, parce que j'ai envie de vivre ma vie, quand même. Mais, non, mais ça a l'air... J'ai lu un commentaire sur Twitter qui disait, en voyant le truc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le moment de la grotte de Dagobah, mais juste sur tout un film.
Oui, c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi. C'était le truc sur l'île, c'est pas une île, la planète où il est avec Yoda, c'est ça,
c'est
et quand il va dans la grotte et qu'il tranche la tête de Dark Vador, et c'est la sienne.
C'est ça.
C'est exactement ce que j'ai pensé aussi. Ok, on va s'arrêter, donc on a fait un épisode très court, comme vous pouvez le voir. Nous espérons que ça vous a intéressé, il y aura probablement aucun chapitre et je m'en excuse, mais c'est comme ça que je peux le mettre en ligne tout de suite. Et pour une fois, vous n'attendrez pas 3 mois. Voilà,
c'est officiellement le podcast le plus court qu'on ait fait où on mentionne Star Wars dedans.
Voilà, c'est ça. Écoutez, bonne pop d'ici là. J'espère que vous allez à Cérémania, que vous en profitez et sinon que vous trouverez le moyen de voir les séries ailleurs. Et sinon, quand même, que vous trouvez ça intéressant ce qu'on raconte. Voilà, c'est tout.
Plus. We feel the
night is upon us. Bienvenue dans Parlons Pop. J'ai quand même écrit pour le lire. J'arrive pas à lire.